www.radio-g.fr.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trompez vite! Venez par chez toi ici!
Juste en! Les touristes de mort!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G, il est 19h, nous sommes le 6 janvier si je ne me trompe pas, si je ne suis pas resté en 2019, et bienvenue en 2020. Bienvenue à mes chers petits camarades qui sont là avec moi pour vous réjouir les esgourdes de belles pages et de belles images. Ça va les gars?
Ouais. Écoute,
vous avez passé une bonne année?
Attends, je m'entends pas, c'est pire.
Tu ne t'entends pas, tu veux que je mette le son plus fort?
Non, c'est faut que je règle mon casque. 1, 2, 1, 2.
3, 4.
Comme à l'église.
Attends. Et ce sont les joies du direct.
Professionnel.
Parce que quand tu mets,
ah, c'est mieux, c'est bien beaucoup mieux. C'est bien mieux. Je m'étais trompé de plate, de trou. En fait, je sais pas comment.
Et du coup, bonne année.
Ouais, meilleurs vœux. Bonne année. Meilleurs vœux tout le monde. Ouais.
Bonne année également, chers auditeurs. J'espère que vous avez profité des fêtes pour écluser vos piles à lire, acheter de nouveaux livres, en recevoir en cadeau de Papa Noël. J'espère que les gars aussi, c'est vous. Vous avez reçu des belles...
Quelques-unes, ouais.
Quelques-unes. Ton soupir, je pense que...
Non, bah si, oui, mais c'est... Ouais, si, c'est bien. Il y a plein de super trucs que je voulais depuis très longtemps, et notamment mes deux filles m'ont offert l'édition Ta chaîne des œuvres de Winsor McCay. Little Nemo in Slumberland. Donc ça, c'est... ouais, pour l'instant, c'est ce que j'ai eu de plus upgrade en termes de...
Le grand, ouais.
Tout.
Ils sont pas foutus de ma gueule. Les bibliothèques, par contre.
Bah, on sait pas trop où le foutre, ce bouquin-là, mais en même temps, c'est rendre hommage aux planches de Winsor McCay telles qu'elles étaient à l'époque, parce que du coup, c'était le format de parution, ouais. Donc ça, et puis plein d'autres choses. Donc, ouais, je vais pas vous raconter ma vie non plus, mais c'était bien. C'était placé sous le signe du 9e art.
Anthony, es-tu parti en camp pour nous raconter tes... Non?
Non, je suis parti en camp, cette fois-ci je te raconterai pas ma vie, non.
Tu as eu de belles lectures à Noël?
Ouais, du coup ma pile à lire était au plus bas et je comptais bien sur Noël pour la renflouer et c'est ce qui s'est passé.
Yes.
Donc voilà, j'ai bien entamé et je vais la finir sous peu pour pouvoir réacheter encore.
Ok. Et toi Bertrand?
Ah, j'ai eu que des cadeaux utiles. Ils ont pas pris le risque de m'offrir un manga cette année.
Un tire-bouchon?
Non, un sac, une montre, des choses comme ça.
Une alarme anti-incendie.
Une manette pour une console que j'aurai le droit de jouer que quand j'aurai mon concours.
Ouais,
ce genre de choses, ce genre de truc.
J'ai bien encore ce genre de punition. Sympa. Mmh. Eh ben, ravi de débuter cette nouvelle année avec vous. On débute un peu tard cette année, parce que du coup, on est le 6, ça fait quasiment une semaine que le 1er janvier est passé. Je réitère à nos chers auditeurs nos voeux de bonne année, de bonne lecture et de bonne santé. On va essayer de faire mieux, encore plus pro que les années précédentes. Vous noterez que pour cette émission du 6 janvier, elle est toujours aussi mal préparée que d'habitude, mais qu'on va vous faire passer un bon moment en notre compagnie sur le 101.5 de Radio G, et que c'est déjà ça que ça vaut. Puis juste de nous écouter, c'est le meilleur de toute façon.
Oui, c'est ça. pas besoin d'être si pro finalement.
Rebondis pour sortir de la mélasse. Oui, c'est ça. Ça sert à rien.
Allez, tant qu'on passe un bon moment, c'est.
Quoi? Sois pas comme ça.
Professionnel.
Jusqu'au bout.
Allez, qui veut commencer? Eh ben, d'accord. Vous battez pas?
T'as pas dit.
Bah, moi, non.
Toi, tu m'as dit que t'avais rien.
Moi, j'ai absolument rien. Alors, après, avant que je me fasse bâcher pendant plusieurs semaines, je précise que j'ai été malade pendant les vacances et que ça a quelque peu ralenti mon rythme de travail. Et que, voilà, j'ai du boulot, donc je n'ai pas fait de.
Je pense que oui, de chronique. Tu as une bonne excuse.
Tout à fait.
Bon, du coup, j'y vais.
Ah bah, comme tu veux. Allez. Moi, j'ai des trucs. Je peux en faire un,
Vas-y, j'y vais comme ça. Après, je.
Après, comme ça, c'est fait.
Après, je peux tacler les autres sans trop stresser.
T'as le côté pansement, en fait. On l'enlève, on le fait tout de suite, comme
c'est
ça, après, c'est
voilà,
fini.
Voilà. Je peux tirer d'un coup sec.
Ok.
Alors, j'y vais.
Ouais, bah je t'en prie.
Il y a plus de jingle cette année.
Si, mais j'ai plus de batterie.
Ah d'accord, bon, bah, vas-y.
Ça fait partie de mes bonnes résolutions. Peut-être qu'en 2020, vous aurez des jingles.
Je vais vous chroniquer une petite chronique sur un manga, étonnamment. Ça n'a pas changé en 2020, ça. Donc, Litchi Ikari Club de Furuya Izamaru. Mm-hmm. Donc déjà, on va parler de Furuya Izamaru. Donc, c'est un auteur atypique. C'est une sorte de touche-à-tout venu à la bande dessinée après un parcours riche en expériences artistiques. Il a d'abord étudié aux Beaux-Arts. Il a abandonné la peinture à l'huile, puis la sculpture, le théâtre. Et il s'est intéressé à la danse Buto et à l'expression corporelle. Donc, j'ai regardé un petit peu ce que c'est la danse Buto sur
donc,
Internet. C'est quelque chose de très particulier. Je suis pas trop fan de danse. Je sais pas trop quoi en penser. Mais c'est de la danse du corps obscur. C'est les danses que vous pouvez trouver sur Arte vers 23h. Des choses très particulières quand même. Mais ça a l'air sympa. Moi, j'aurais bien été.
La danse du corps obscur.
C'était la définition. La danse du corps obscur.
C'est tout un programme.
Voilà. Donc, en 1994, il se lance dans le manga sans vraiment connaître les conventions de style et de narration. Ça se retrouve d'ailleurs dans ce manga, oui. Ça respecte pas vraiment les narrations de style et les conventions adoptées par la majorité. Donc il est parfois auteur, parfois dessinateur, souvent les deux. Il fonce dans de nombreux domaines, adultes, récits fantastiques, humour, grand public ou encore vie lycéenne. Les lycéens sont d'ailleurs très souvent au cours de ses récits avec par exemple « Je voudrais être tué par une lycéenne ».
Ah, mais oui,
c'est lui
j'avais chroniqué ça.
Voilà.
C'est très étrange, effectivement.
Bon, c'est bien de parler de l'auteur, ce personnage un peu particulier vu ce qu'il a fait. Mais on va quand même parler du manga encore plus particulier. Mais qu'est-ce donc que le Ikari Club ? Ceux qui ont tenté de le découvrir ou qui ont eu le malheur de tomber sur une réunion de ses membres ne sont plus de ce monde pour en témoigner. Car seuls les élus de Zera ont le droit de siéger dans cette usine désinfectée et participer à la réalisation de la grande œuvre. Zera, celui dont la parole est sacrée, qui est vénéré par ses disciples, 8 jeunes garçons à la limite de l'âge adulte, mais qui refusent cette horrible transformation. Et le jour de leur gloire est arrivé, leur grande œuvre va recevoir la vie, oui, que ce gigantesque robot les guide vers la lumière, gloire à Litchi. Bon, ça fait un peu peur quand je vous lis tout ça et
ça
tout.
Ça fait... ouais, c'est flippant.
Il est rare d'avoir entre les mains des mangas incroyables par leur force, leur côté politiquement très incorrect, voire même vraiment malsain. Et Litchi Ikari Club est un concentré de ces trois choses-là. Il peut être lu au premier, mais je vous conseille plutôt de le lire au deuxième degré. On peut y voir la déchéance de ces jeunes garçons comme la critique extrêmement corrosive de tous les extrémismes et des dérives sectaires. Que les 9 jeunes commencent ce tome en parlant allemand avec cette tenue d'écolier rappelant celle des militaires, on n'est pas loin du groupuscule nazi. Mais par la suite, le mangaka nous montre Zera, plus sous la forme d'un gourou menant sa secte à l'autodestruction. En voulant se la jouer philosophie de seconde zone, on peut aussi dire que le mépris que ces jeunes montrent envers les adultes est aussi une métaphore de ce passage difficile de l'adolescence à l'âge adulte. En fait, ils veulent tous rester libres de faire ce qu'ils veulent sans le poids imposé par le monde des adultes. Le besoin d'avoir comme icône une jeune fille est aussi la découverte de la sexualité, mais pas seulement hétéro, mais aussi homosexuel. Jaibo, avec son air androgyne, a bien compris la puissance du sexe dans une relation et il va l'utiliser, cette arme, sur Zera. En parlant de sexualité, un mot sur cette histoire d'amour totalement contre nature entre le jeune Kanon et le robot Litchi. Le mangaka nous crée des Roméo et Juliette quasi post-apocalyptiques. Même si le monde extérieur à l'usine n'a pas du tout changé, on peut quand même s'étonner que la police ne s'intéresse pas du tout aux disparitions provoquées par le club. Niveau dessin, on est encore sur de l'atypique. Le sexe, comme le sperme, n'est pas dissimulé. Le sang gicle dans des scènes toujours plus violentes et gore. En le lisant, on est vraiment à jongler entre fascination, intérêt malsain et surtout dégoût. Difficile de faire le tour de tout ce que contient ce manga hallucinant. C'est un petit bijou qui se lit d'une traite. À la fin du manga Litchi Ikari Club, Izamaru Furuya nous garde encore quelques minutes pour nous expliquer comment est né ce monstre. Le manga est en fait l'adaptation d'une pièce de théâtre du même nom que l'auteur avait vue alors qu'il était en première. Enfin, là-bas ça s'appelle pas première, mais c'est l'équivalent. Fasciné par celle-ci, des années plus tard, il a voulu lui rendre hommage à travers ces quelques pages. A noter aussi que le manga est un peu plus grand que la moyenne et que sa couverture ne ressemble en rien à ce qu'on a l'habitude. On dirait presque une sorte de livre démoniaque qu'il faudrait ouvrir avec prudence. Si vous êtes en manque d'expérience atypique, je vous conseille vivement la lecture de cette bombe. C'est Litchi Ikari Club de Izamaru Furuya, publié chez IMO. I-H-M-O.
Eh ben, c'est vrai que le bouquin a l'air hyper particulier. Alors c'est un gros pavé en plus.
Ouais, c'est celui-là, parce qu'il y en a deux. Il y en a un noir et un blanc. Parce qu'en fait, il a réécrit, je ne l'ai pas encore lu, mais il a réécrit l'histoire en un peu plus soft.
D'accord, donc il y a la version blanche soft et la version noire hard.
Où là, il n'y a rien qui est... Voilà.
Ok, c'est original comme, ouais, comme concept.
Bah ça, tu vois, le manga est plutôt épais, plutôt grand. J'ai lu les premières pages et puis ça doit être mon esprit malsain. Je l'ai lu en peut-être une heure, tu vois. Mais ça m'intriguait de savoir pourquoi il y avait eu cette chose, pourquoi ce manga est arrivé, parce que je l'ai acheté par hasard. Et puis c'est bien d'avoir l'explication à la fin qui te dit que l'auteur n'est pas complètement fou.
Mais il a des thématiques qui sont très particulières, parce que je voulais être tué par une lycéenne. C'est déjà hyper particulier, donc c'est vachement bien, mais c'est hyper particulier.
Et il est, comme je disais, il a tous ses mangas, ils ont un thème différent, il est jamais sur la même... des auteurs comme d'autres auteurs qui sont tout le temps sur la même gamme, etc. Lui, il essaye jamais de faire la même chose. Il essaye toujours de pousser à un endroit différent chaque fois.
Ouais, puis il a l'air de chercher.
Mais il est plutôt, reconnu. Il est plutôt reconnu au Japon, enfin pour tout ce qu'il a fait, notamment une petite partie artistique. Il est reconnu pour ça aussi.
Bah, impressionnant.
Si... voilà, je l'ai acheté par hasard.
Ben, comme quoi, le hasard fait bien les choses.
Bah oui.
Enfin, j'ai l'impression. Je le piquerai. C'est mon esprit malsain.
Tu veux la version soft ou la version
malsaine? Hard, ah, sinon c'est pas drôle.
Tu verras, c'est dès le début.
Ah. Tiens, on va faire un petit instant promo Copino, où justement on parle de version hard et de version soft. S'il y avait une version soft de ce truc-là, il y aurait deux pages, c'est ça?
Ouais. c'est pas si.
Non, c'est pas trash.
Moi, j'ai
trash.
Pas trouvé ça. Enfin, j'ai pas trouvé en même temps. Je suis assez mal placé pour juger, mais c'est pas ce que j'ai fait de plus trash, on va dire.
Non. Il s'agit bien entendu de Drunken George de Tony Emerio et de Dominic Enbo, qui est publié chez Monsieur Popcorn. Alors, il n'y a pas une collection spécifique, hein, c'est pas dans la collection jeunesse.
Non, bah, y a la petite mention Parental Advisory, après qui n'est pas forcément très utile à mon goût, avec pour lecteur averti. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit si. J'arrive pas à trouver mes mots, si utile que ça, mais. Mais bon, c'est mis, hein, désormais.
Pas que les plus jeunes âges seront attirés par cette couverture.
Je ne sais pas. Les enfants sont étonnants, ils peuvent ouvrir des trucs.
Je pense que le pour lecteur averti vaut pour les lecteurs avertis qu'ils vont y trouver de l'humour un petit peu second degré, pas forcément un humour très...
fin.
Ouais, voilà, c'est pas le but recherché.
Non, pas du tout, non. C'était de raconter une histoire... qu'on avait envie de raconter, à savoir l'histoire de George O'Reilly, qui est un veuf, qui a perdu femme et enfant dans l'incendie de sa ferme, et qui boit pour oublier. Et ça marche, en fait, parce que du coup, il oublie quasiment tout, vu qu'il est torché H24, mais c'est des grosses, grosses bitures hein, qui se mangent. C'est un vrai bon alcoolique. Et la providence fait que il est toujours au bon endroit au bon moment. Voilà, la loi du hasard fait que il devient presque une légende de l'Ouest, mais sans jamais rien panner à ce qui se passe autour de lui.
Bien malgré lui.
Ouais.
Et il tombe les femmes hein, aussi.
Il en tombe une en particulier, t'as raison. Oui, il fait aussi un petit peu de l'effet à la bourgeoise du train en l'occurrence. Oui. Oui, effectivement,
Alors, c'est assez particulier. On est sur un trait graphique. Je veux pas qualifier de brouillon, mais il y a une volonté d'être un petit peu dégueulasse dans le
tout à fait.
Dans le traitement, qui fonctionne bien.
Qui va de pair avec l'histoire, en fait. On voulait vraiment, on est sur un personnage un peu dégueulasse, un peu crade, et du coup, voilà, fallait que le destin fonctionne, aille dans cette voie-là aussi.
Et puis, on a cette volonté de détériorer un personnage qui pourrait être au départ à peu près correct, puisqu'il se prend un coup de fusil ras la touffe et finit la tête en vrac quasiment tout le long du truc.
La touffe du haut, faut préciser.
Il y tire à celle du bavard. faut pas déconner. Mais c'est potache, ça marche super bien.
Ouais.
C'est franchement drôle. J'avoue que la traduction des paroles, parce qu'il a un problème d'élocution hein, dû à son alcoolémie.
Comme tous les hommes de l'Ouest, quoi. C'est vrai que lui, en l'occurrence, on voit bien dès les premières pages que c'est très très compliqué de communiquer avec George O'Reilly. Donc, on a mis un petit lexique pour parler le mec bourré.
Et ça permet de comprendre.
Ouais, bien sûr. Ouais. Après, s'il n'avait pas tout à fait, s'il n'avait pas ce problème d'alcool, il s'exprimerait très bien.
Alors, faut savoir qu'il y a tout un tas de personnages, on va dire, rocambolesques. Ça va du justicier masqué qui se prend pour une espèce de Zorro des temps modernes.
Ouais.
Ou au type qui a l'impression d'avoir compris tout ce que panent les Indiens et pas du tout, en fait.
Non. L'universitaire, le fameux universitaire qu'on voit pas très longtemps, d'ailleurs.
Non.
C'était ça en fait. C'était on est presque sur un récit un peu à la Alice au Pays des Merveilles, sur un truc initiatique. Après, tu pourrais presque même dire que c'est un conte. Hein. De toute façon, voilà, j'en ai mis un petit bout parce que c'est quelque chose.
Oui, forcément.
J'ai du mal à m'en empêcher. Mais voilà, il y a pléthore de personnages très secondaires qui traversent en fait cette épopée. Des personnages qui vont pas être utiles à l'intrigue, qui vont à un moment donné. Initialement, quand on fait des rencontres, au même titre qu'Alice par exemple, c'est pour enrichir. C'est-à-dire que voilà, le héros commence à la Zadig au départ, et puis finalement évolue au cours du récit. Là, en l'occurrence, on voulait un personnage qui n'évolue pas du tout. Et qui à la limite désévolue, tu vois, tout doucement. On voulait vraiment faire un anti-héros jusqu'au bout, et j'espère qu'on a réussi. Enfin, je pense que.
Après, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il panne tellement rien au truc qu'on a l'impression qu'il traverse le bouquin sans vraiment prendre conscience en fait.
Ouais. Ça peut presque être un spoil de dire ça, mais à un moment donné, il y a un léger mieux dans l'histoire. Et puis on avait envie d'opérer un petit virage, c'est-à-dire que bon, c'est vraiment potage comme tu disais, c'est gras, c'est con, hein, c'est vraiment très con. Et puis à un moment donné, l'histoire se durcit un petit peu. Enfin, en tout cas, on essaye de mettre un peu de drama là-dedans. Et puis après, on laisse aux gens le soin de découvrir la fin, ceux qui voudront le lire.
Alors. Je tiens quand même à gâcher un peu le
la oui, oui,
ça
oui,
se
bah
lit
on peut.
Hyper vite.
Ça se lit vite, ouais,
c'est
malheureusement.
Ça que je trouve dommage, en fait, c'est qu'on aurait aimé un truc peut-être avec plus de consistance. Alors effectivement, ça aurait été à contresens, puisque du coup, le type étant tellement lui-même inconsistant que...
Moi, ça m'aurait pas dérangé d'avoir un peu plus de pages, parce que du coup, quand t'as un matériau comme le western, tu te dis que t'as ta pléthore de choses à raconter. Surtout que là, en l'occurrence, on est sur une carte postale hein, du western spaghetti. Donc, il y a le Stallone, il y a les filles de joie, il y a la locomotive, il y a les Indiens en colère, il y a les bisons, il y a les vétérans de la guerre qui est des Cujat. Voilà, il y a vraiment tout ce que moi j'ai pu voir un gamin dans ces films-là. Et puis, du coup, on a essayé de brasser ça un petit peu.
Et il y a même du méta. Puisque les auteurs sont inclus eux-mêmes sous une forme peu reluisante dans le bouquin.
À plusieurs reprises, du coup, c'était Dominique qui avait l'intention de... Il faut rendre à César ce qui appartient à Dominique Hennebeau. Et du coup, il, en tête de chapitre, il voulait faire une espèce de petit mea culpa sur la genèse un peu chaotique du bouquin.
Sur les erreurs graphiques.
Sur les erreurs graphiques, en l'occurrence, notamment au début du deuxième chapitre. Il y a un train, en fait, qui est arrêté pleine voie, parce que du coup, il y a les gilets jaunes de l'époque, hein, notamment les Indiens qui ont tué des bisons, enfin on pense qu'ils ont tué des bisons à ce moment-là et qui les posent sur la voie et qui empêchent l'homme blanc d'avancer jusqu'à son point de destination. Et il y a une phrase en fait, parce que j'écris les dialogues, et il y a une femme qui dit « perdu au milieu de nulle part », je crois que c'est ça à peu près le dialogue, « perdu au milieu de nulle part sans aucun moyen de communication ». Et cet abruti de Dominique Hennebeau, qui est un ami, hein, c'est pour ça que je me permets de dire ça, trouve le moyen de foutre en fait le fil télégraphique juste à côté. Donc sans moyen de communication, c'est pas tout à fait ça. Sur le principe, tu vois, il y a quand même moyen de raccorder le télégraphe et de se démerder comme ça. Mais bon, voilà, c'est des petits détails et du coup, on en a fait un truc comique, c'est-à-dire qu'on assume les erreurs, on assume les conneries et puis on le met quoi. Et du coup, Dominique avait trouvé ce petit truc de se mettre en scène sur plusieurs points clés de la genèse du bouquin où du coup voilà, on s'interpelle,
c'est des bonnes vannes qui passent bien,
c'est des bonnes vannes qui passent bien et qui sont pas très loin de la vérité surtout, enfin ça s'est plus ou moins passé comme ça quoi. Il m'a vraiment filé la planche et je dis mais il est con en fait,
pas toutes par contre,
non pas toutes
si. Parce que patron de peintre de
si ça ça a pu arriver, ça a pu arriver de temps en temps effectivement, cette vanne là est venue en fait quand on était en train de réfléchir et on était dans un bar et je crois qu'il y en a un des deux qui a dit de peintre de documentation s'il vous plaît,
et ben voilà
c'est ça. Il fallait bien savoir ce que ça faisait d'être un peu éthylique, quoi. C'est pas une sensation qu'on connaît autrement, nous, spécialement. Donc voilà, on voulait vraiment savoir ce que ça donnait.
L'idée que j'ai trouvée vachement sympa, c'est les affiches. En guise de tête de chapitre, ça rappelle à la fois les vieilles affiches de cinéma de western spaghetti ou alors de journaux en fait, avec le côté 5 scènes etc. Enfin, je
ça c'est ça en fait, c'est des illustrés, c'est des, bon quand tu lis l'histoire ça démarre pas dans, c'est-à-dire qu'on est sur une mise en abîme un petit peu, c'est-à-dire que c'est deux gamins qui s'ennuient, alors enfin c'est un des deux enfants qui s'ennuie et du coup il a un jeu qui est assez particulier, il joue avec des carottes. Et du coup, son frère lui dit, mais t'as pas autre chose à faire. Il y a dans la chambre des parents,
il y a des trucs qui,
il y a de la littérature pour les hommes, quoi. Et du coup, ils se mettent à lire en fait les aventures de Drunken George. Et, du coup, comme c'est une légende de l'Ouest, il a eu droit à son illustré. C'était des choses qui sortaient véritablement à l'époque, en fait, des espèces. Bon, c'est un peu comme les romans de guerre qu'on avait au 19e chez nous en France.
L'avant-goût du comics.
Tout à fait, ouais, clairement. C'était très pulp. Ça racontait les histoires de Jesse James. Alors, bien évidemment, c'était fantasmé et romancé, mais il y avait des choses comme ça, quoi. On s'est dit, tiens, bah, si on créait vraiment un super-héros qui, finalement, n'aura pas du tout marqué l'histoire sur le long terme.
Il faut savoir que à la fin du tome, en plus, on a le droit à quelques affiches comme ça.
Ouais, on a demandé à des copains de faire des fanarts comme à chaque fois. En fait, on aura aussi ça sur Paria. Maintenant, c'est un truc qu'on, je sais pas, les gens se prêtent très facilement à l'exercice et adorent faire ça. Donc là, on a eu une galerie. On a eu de la chance hein, pour celui-ci. On a vraiment eu des trucs très très chouettes. On a eu Étienne Leroux, Jérôme Lereculet. Dave, Olivier Supio, bon, bah, forcément Olivier Supio, Laurent Lefeuvre, TM, Xavier, il me semble bien.
Oui.
Jörg, Fred Druard, que j'oublie, Pauline Caster, qui est la seule fille, en fait, encore une fois, malheureusement.
TM.
Les filles sont sous nom. TM, j'ai dit, je crois, il me semble, mais ouais, TM. Et puis moi-même, en fait, je me suis essayé à faire une petite illustration, vite fait.
Et puis on laissera les gens découvrir le petit challenge à l'ego noté en toute de bouquin. Une bonne frange déconnade, et je pense que c'était pas ce que tu voulais en faire de plus.
Non, j'avais pas du tout de prétention autre que celle-là en faisant ce bouquin-là.
Drunken George, la légende du pire héros de l'Ouest, signé par Tony Murio et Dominique Hennebeau aux éditions Monsieur Popcorn. Je suis quand même parental advisory pour lecteurs avertis.
Bah, ne serait-ce que pour la fin, je pense que c'est. Alors, je sais pas si c'est un bon argument de dire ça, mais c'est la fin où lequel. Il y a eu un gros débat, parce que c'était pas la fin initiale. Et c'est celle où j'ai eu, moi, personnellement, le plus de mal à accepter qu'on ait cette fin-là, par rapport à celle qui était initialement prévue. Je la trouvais un peu rugueuse. Voilà.
D'accord. Tu pourras nous expliquer en privé la fin initiale prévue ?
Oui, elle était tout autre, hein, mais là. Voilà, celle-ci, ça a été sujet à de nombreux débats avec explications de pourquoi on fait ça, etc. Et au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire, j'ai dit oui, d'accord, on va faire ce qui doit être fait.
Ok.
Voilà.
Les suites, ce sera lors des rencontres que vous pourrez faire avec Tony pour faire des dédicaces ou avec Dominique lui-même pour lui poser la question. Et
oui.
C'était quoi qui était prévu
Et du coup, je l'expliquerai sans problème.
Allez, on va se faire une petite pause musicale et on se retrouve tout à l'heure sur le 101.5 de Radio G. C'est la reprise, hein, la reprise de l'année, donc du coup je vous ai mis deux reprises. On va commencer avec une première reprise, c'est une reprise de la musique Still Alive qui a été popularisée par le jeu vidéo Portal et qui a été reprise façon Frank Sinatra.
This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying until you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me, tore me to pieces, and threw every piece into a fire. As they burned, it hurt because I was so happy for you. Now these points of data make a beautiful line. And we're out of beta, we're releasing on time. So I'm glad I got burned to think of all the things we've learned for the people who are still alive. I've experiments to run, there's research to be done on the people who are still alive. And believe me, I am still alive. And while you're dying, I'll be still alive. I feel fantastic and I'm still alive. And when you're dead, I will be still alive. Still alive, still alive.
Still Alive et Still sur le 101.5 de Radio G.
In Alive, comme dirait Anthony.
J'ai rien dit du tout.
C'était pas la même
c'était
chose.
C'était hors antenne.
Oh là là. T'as une culture musicale toute pourrie en fait.
Non, c'est pas vrai. J'ai ma culture musicale. C'est pas pareil.
Oui, c'est vrai. Alors, faut pas confondre la culture et l'inculture.
Bertrand m'a débranché.
Bertrand.
Bertrand.
Non, mais il était temps.
Ça y est, c'est bon.
Non, pas du tout. Mais continue, hein, parce que sinon ça va être bizarre. À
allez, Anthony, tu ça, veux parler moi. Tu veux que ce soit moi qui parle?
Tu en fais une et puis je fais ma chronique comme ça, on alterne.
Ouais, comme tu veux. Ils parce sont enragés, ils sont en train de négocier les chroniques.
Non, mais fais comme je veux. Double chronique en fait.
Après, moi, je l'ai lu.
C'est une double chronique. On peut en parler ensemble. Effectivement, moi, je voulais parler surtout d'un éditeur que je ne connaissais pas beaucoup. Qui s'appelle Spaceman Project et pour lequel je suis tombé sur deux bouquins qui avaient l'air un peu chelous et alors un moins chelou que l'autre et du coup j'étais vraiment emballé et du coup l'éditeur j'aime beaucoup ce qu'il fait et du coup je voulais juste en parler. Là il a publié deux bouquins, alors je sais pas les dates de sortie, j'en suis désolé. Koroke et la fille qui a dit non. Un gros bouquin sur les yokai.
C'est vieux hein, ça a peut-être 6 mois facile.
Ouais, c'est vrai qu'en termes de BD, 6 mois, c'est vieux.
Oui.
Mais un bouquin hyper sympa. Un bouquin sur une jeune fille en fuite qui a été, dont la famille a été frappée par une espèce de malheur, hein, on ne va pas en parler, et qui doit normalement se marier avec un petit vieux. Un petit vieux, non, il n'est pas vieux, mais il est gros.
Ah, rond, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, je t'avoue.
Hyper laid. Et il essaie en fait de s'anoblir en prenant en se mariant avec cette jeune fille. Et cette jeune fille va aller demander de l'aide à un oni qu'il s'appelle Koroke. Un oni qui...
C'est un diable, hein. Enfin un oni c'est un,
oui,
c'est un
les
yokai.
Oui, c'est les yokai. Voilà.
Une mauvaise entité.
Ouais. Mais qui sont... Enfin, les yokai sont pas forcément mauvais. Ce sont des entités...
Ils font des mauvaises choses. Ouais, ils peuvent juste t'embêter.
Au
ils
Japon,
sont pas
en
si
fait,
mauvais.
C'est ça. Ce sont des entités qui viennent faire n'importe quoi. Je pense que le plus connu, c'est celui, c'est le kappa, celui qui a cette espèce de petite coupelle d'eau sur la tête. Et quand on veut se débarrasser d'un kappa, il suffit juste de lui dire bonjour. On le salue, on s'incline, il s'incline aussi, il vide sa coupelle d'eau et il tombe dans les vapes parce que quand il a plus d'eau dans sa coupelle, il va pas bien. Donc, une découverte, hein, si vous ne connaissez pas les yokai, c'est l'occasion, puisque pour aider un petit peu à la compréhension, on a également une galerie de yokai à la fin du bouquin, qui nous explique certains yokai. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne nous épargne rien, même si le récit est hyper accessible aux enfants, je l'ai lu avec ma fille et ça passe super bien, on a des créatures avec des yeux qui tombent. On a des créatures avec trop d'yeux, des créatures qui mangent. On a des trucs extrêmement bizarres et ça fait peur, mais c'est une peur rigolote pour les enfants et ça passe ultra bien. Le dessin est hyper travaillé. Alors, l'expertise technique de Tony.
Ouais, je trouve ça très très joli, moi. Je trouve ça super. On est sur un héritage de dessin animé. On a quelqu'un qui a compris pas mal. Alors, c'est un ancrage qui est assez gras. C'est-à-dire que je vois pas bien de là, parce que je l'ai eu entre les mains il y a longtemps, mais j'aurais tendance à penser qu'on n'est pas sur
du trad, mais plus du numérique.
C'est difficile à dire, en fait. En tout cas, on est sur du numérique qui se donne des allures de trad, ça c'est sûr. Et puis c'est marrant, c'est parce qu'on a l'impression qu'on est sur un pinceau à sec un petit peu, avec un ancrage assez gratté, pas toujours, tu vois, pas toujours ouais. Net, pas toujours clair, un tout petit peu tremblé. Non, c'est très très joli. Je sais pas, ça me rappelle moi surtout dans l'esprit, bon, pour ceux qui connaissent hein, évidemment les contes de la princesse Kaguya qui oui, reprend oui, un exact. Peu ce genre de graphisme d'estampes en fait typiquement japonaise forcément de l'ère Edo et qui bah, du coup rend hommage graphiquement à cet art ancestral japonais. Ouais.
Un bouquin qui est extrêmement joli hein.
Ouais, super
par
beau.
Contre on en discutait pendant la pause musicale le reproche qu'on pourrait lui faire c'est que sa narration est tellement bien trouvée mais je pense que c'est le problème qu'on va avoir sur beaucoup de bouquins qui sont extrêmement efficaces c'est que c'est hyper fluide
ouais.
Et ça va se lire extrêmement rapidement. Alors on peut le reprendre et regarder certaines pages parce qu'effectivement il y a des choses qui fourmillent de détails, c'est hyper beau et ça se reprend avec un grand plaisir. Les personnages en plus sont hyper attachants, hyper charismatiques, mais ça se lit hyper vite. Si on rajoute à ça qu'il y a tout un passage en fait où on voit beaucoup de choses qui se passent sous forme de comment dire, c'est des pages sur trois bandes. Le quadrillage est sur trois bandes et il se passe des choses sans texte et c'est le tournant de l'histoire qui se passe à ce moment là et on est spectateur et ça passe vraiment très très bien. C'est un bouquin que j'ai relu deux fois déjà et qui est vraiment très très beau et que j'ai adoré.
Ouais bah pareil voilà. Moi j'avais ça fait longtemps que je l'ai lu hein, mais du coup effectivement il a gardé une bonne place dans ma bibliothèque. Et non, il est très bien. En plus, c'est sur les yokai, donc c'est quand même un univers qui est un peu le vent en poupe en ce moment. Moi-même, j'ai pas mal d'appétence pour cet univers-là, donc je peux comprendre qu'on a envie de raconter une histoire dessus. Après, il y a pas mal de trucs qui sont sortis sur les yokai, et celui-ci fait partie de ceux qui m'ont vraiment plu. Il y a des choses qui sont un peu moins heureuses. Celle-là marche plutôt bien. Ouais.
Et puis ça marche sur tout public. Hein,
ouais, je pense que quel que soit l'âge. Alors après, je pense que c'est vraiment initialement prévu pour la jeunesse, mais on peut le lire effectivement à tout âge.
Et puis, même si c'est joli, l'histoire n'est pas non plus.
Non, elle n'est pas gnangnante.
Avec quelques petits retournements de situation, on nous présente des personnages qui sont effectivement très marqués, très caractériels, et avec des petits retournements de situation. Alors, je vous laisserai les découvrir au fur et à mesure, mais c'est vraiment sympa. Il y a des choses auxquelles c'était plutôt inattendu.
Ouais, c'est un beau bouquin.
C'est un beau bouquin, ça passe bien et c'est vraiment sympa. Koroke et la fille qui a dit non de Busquet et Cantero, c'est aux éditions Spaceman Project et c'est top, moi j'aime beaucoup.
Ouais, c'est vrai que même visuellement c'était appétissant.
Ouais, c'est
la fin toi hein. Ouais, c'est ça hein.
Et puis, régime,
complètement sur un autre spectre puisque on est autant Koroke est un bouquin avec une couverture rigide, un bouquin de taille assez conséquente, et je suis tombé sur Nothing Personal Just Business de Busquet, la même du coup, et André qui prend complètement le contre-pied parce qu'on est sur un bouquin
un ado scolaire.
Carré, presque livre scolaire, couverture cartonnée.
C'est les mêmes auteurs. Parce que du coup, c'est pas du tout.
Attends, je revérifie un point. Joseph Busquet, c'est le scénariste. J'ai l'impression, ouais, ça doit être le scénariste. C'est, je sais pas, c'est même pas marqué. Ils m'aident pas.
Non,
aidez-nous.
Ils précisent plus. Non.
Aidez-nous.
À la fin, peut-être.
Bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en est, il y a au moins un des auteurs de Koroke qui est également sur Nothing Personal avec l'accent en anglais.
Bon, il y a des chances que ce soit le scénariste parce que graphiquement oui. Parlant, c'est quand même très éloigné, je trouve.
Ah bah graphiquement, ouais, c'est hyper éloigné. Là, on est plus sur un côté très cartoon américain. Enfin, tu me dis si je me trompe, hein.
Non, c'est ça, ouais. C'est...
Avec une couverture qui joue astucieusement sur la face. Et le dos, puisqu'on D'accord. a le même groupe de personnages qui est à la fois de face, la tête belliqueuse. Pour vous donner une idée, vous avez vu Expendables Bah, ils ont l'air mignons à côté, en fait, les gars d'Expendables, puisque ceux-là, on a une vraie tronche de mercenaires. L'histoire, alors je vais essayer de pas vous la spoiler puisque c'est quand même si j'avais pas vu qu'on voyait bien son boule la dame. C'est l'histoire d'un groupe de mercenaires en fait qui est tellement balèze que c'est un petit peu l'intro. Quand il y a un groupe armé hyper costaud qui apprend que ce sont ce groupe de mercenaires là qui tiennent le truc en face, ils disent ouais non c'est bon, on va y aller. Et ce groupe de mercenaires se retrouve engagé pour une mission sur une planète très éloignée. Et ils vont se rendre compte qu'ils se sont fait piéger. Piéger par une émission de type télé-réalité. Et c'est là où ce groupe de mercenaires, qui est composé de leur chef, une femme bodybuildée, une espèce de grande blonde godiche qui ne pense qu'à une chose, c'est trucider tout le monde. Et puis nous avons le médecin de combat qui lui ne doit pas être tué. On n'a pas le droit de le toucher, médecin de combat. Donc lui, il ne se gêne pas non plus pour le faire. Et il est capable de vous suturer une plaie tout en trucidant les mecs en face à coups de taser. Ce qui est un groupe hyper, hyper bizarre. Et puis on a le débutant qui n'a pas de nom puisque c'est le débutant, c'est le nouveau. Donc ça fait peut-être 3 ans qu'il est débutant, mais c'est une équipe complètement barrée et qui va se retrouver à être superstar, on va dire, de cette espèce de show télé. Ils intègrent le fait que c'est pas personnel, mais il fallait pas les prendre et puis que d'accord, ils sont là, mais ils vont participer au jeu et et voilà.
Ils vont pas mettre le boxon.
En fait, le jeu est assez simple. On les a foutus eux sur une planète et puis on a promis une prime à plein de gens à côté, s'ils arrivaient à les abattre. Et chacun sa chance.
C'est ça, c'est parti.
Mais c'est hyper fun, ça se lit de manière hyper fluide. On a encore une fois ce principe de narration presque dessin animé, où ça roule tout seul, ça passe bien, c'est un humour qui est complètement barré. Je parlais de ce personnage qui ne pense qu'à trucider tout le monde. Au bout d'une journée, elle est déjà sur les dents parce qu'elle a tué personne et ça lui va plus. Il y a un moment, il faut qu'elle fasse quelque chose et qu'elle tape sur quelqu'un. Et du coup, c'est vachement sympa, il y a beaucoup de gags. Jusqu'à la dernière case, on a un running gag qui va être lié à ce personnage de débutant et qui est vraiment très très fort et on passe à un bon moment. C'est une franche déconnade, on n'en demande pas plus. Le scénario est hyper souple, mais on n'en demande pas plus et on passe à un bon moment. Comme je
c'est en noir
passé.
Et blanc, tu l'as pas dit ça.
Ouais, c'est en niveau de gris, c'est pas
oui,
du noir et blanc.
Oui, c'est pas du noir et blanc.
Et ça passe très très bien, il n'y a pas besoin de plus de couleurs que ça. Moi j'en ai pas trouvé.
Le langage, pas besoin de couleurs.
Et tu sais faire la différence entre du sang et du sperme, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Non, t'es balèze. Ouais, voilà. Nothing Personal, c'est Just Business de Busquet et André aux éditions Spaceman Project. Allez-y, vous passerez un bon moment et vous m'en direz des nouvelles. Moi, j'aimerais beaucoup que ce soit adapté en film, en série télé ou simplement qu'il y ait un tome 2. Parce que vraiment, j'ai passé un bon moment avec ces deux bouquins. Si vous ne connaissez pas Spaceman Project, allez-y. C'est pour moi, ça me fait plaisir. On se refait une petite pause musicale ?
On fait une petite pause musicale.
Ouais. Alors là, on est dans les reprises un peu étranges. J'ai découvert un duo de frères qui s'appelle les Melodica Bros sur YouTube. Et ils se sont spécialisés dans les reprises un peu étranges. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir retrouver Dragon Force. Vous connaissez un peu le...
Ouais.
Shrouds of Fire and Flames en version... molle et acoustique vous allez voir, ça fait bizarre, mais ça passe très bien. On se retrouve tout à l'heure.
time before the light. In flames of death's eternal ring, we ride towards the fight. When the darkness is falling down and the times are tough for I, the sound of evil laughter falls around the world tonight. Fighting hard, fighting for the steel, through the wastelands evermore. The scattered souls, we feel the hell, bodies wasted on the shores. On the blackest plains, in hell's domain, we watch them as we go. Through fire and pain, and once again we know. So now we fly ever free, we free before the thunderstorm. On towards the wilderness, our quest carries on. Far beyond the sundown, far beyond the moonlight, deep inside our hearts and all our souls. So far away, we wait for the day, for the lives are so wasted and gone. We feel the pain of a lifetime lost in a thousand days. Through the water and the waves we carry on. Their hands to the heavens above with resentment in their eyes. Running back through the mid-morning light, there's a burning in my heart. We're banished from the time in a fallen land to a life beyond the stars. In your darkest dreams, seem to believe a destiny's time. And endlessly we'll all be free tonight. And on the wings of a dream, so far beyond reality, all alone in desperation, now the time has gone. Lost inside you'll never find, lost within my own mind. Day after day this misery must go on. So far away we wait for the day, for the lives are so wasted and gone. We feel the pain of a lifetime lost in a thousand days.
Ça vous donne quoi, une musique métal revue en version ukulélé?
Ah, c'était sympa.
J'ai sympa. Que le mou, c'était sympa. On était entraîné.
Oh là là, le dynamisme. Je suis désolé de vous avoir plombé. Hein. On est toujours sur le 101.5 de Radio G. C'est toujours la case de Seb, l'émission qui vous réjouit les oreilles avec de belles images. Oh, j'aime bien ça, je vais peut-être la garder.
Ouais, c'est mignon.
Faudrait qu'on vienne chaque semaine, un chroniqueur choisit la musique, comme ça tu pourras le critiquer aussi.
Ah, mais j'ai proposé ça. Hein.
Ah, bah,
ça fait des années en fait que je propose.
Ouais, moi j'écoute des choses trop étonnantes.
Puis au bout d'un moment, j'ai été obligé de sanctionner parce que sinon on aurait eu la compagnie créole toutes les semaines.
Ouais, je me souviens de cette période de son.
Alors, je sais pas si tu as noté, quand on a fait le best-of en tête à tête avec Anthony, on a quand même commencé avec Bon Baiser de Fort-de-France, juste spécial dédicace pour toi.
Juste le jour où je suis pas là.
Ouais. Ben ouais. Mais c'était pour souhaiter la bonne année. Enfin, joyeux
la
Noël.
Bonne année.
Non, mais c'était l'émission spéciale Noël, donc du coup, voilà, tu vois.
D'accord.
Et ça allait bien.
C'était pour toi.
Bon,
bah ouais. Mais on peut la remettre maintenant si tu veux.
Bah oui, moi tu sais, je dis jamais non.
On va pas s'en sortir.
Allez Anthony, c'est ton tour. Tu nous parles de quoi ?
Moi je vais vous parler de Un monde transformé de Kanaka Meiji chez Ototo.
Ototo édition.
Ouais, je crois que ça doit être au moins ma quatrième ou cinquième chronique de manga qui viennent de chez Ototo. Et décidément, comme toi tout à l'heure avec ta bonne découverte, Ototo me ravit avec un énième manga qui parle d'un univers complètement inconnu. Et normalement, pour ceux qui suivent mes chroniques, savent que j'aime beaucoup l'aventure et notamment dans des mondes complètement différents de ce dont on a l'habitude de voir. Donc, Un monde transformé, ça va vous emmener dès les premières pages sur un grand plan du royaume dans lequel vous allez être immergé. Dans ce royaume, tout est basé autour de la prêtresse de Della, une déesse, et autour du temple, qui est vraiment central géographiquement et politiquement. Non, rends-moi mon tome, merci. Et dans ce monde se passent en fait plusieurs intrigues politiques et notamment aussi quelques apparitions de monstres. Donc on y suit en fait la prêtresse qui brille par son absence dans le temple préfère partir à l'aventure avec sa copine dans la forêt afin d'explorer, de bricoler, etc. Jusqu'au jour où en fait elle va faire la connaissance d'une petite fille vraiment très étrange. Non, je ne mange pas mon micro. Pourquoi tu mimes le mangeage de micro ?
Non, rien.
C'était très perturbant.
Non, rien.
Très perturbant. Et donc, elle va rencontrer cette petite fille qui est très perturbante, justement, dont on ne comprend pas trop nous-mêmes le comportement, étant donné qu'on voit juste quelqu'un de très louche, qui, à mon avis, on va recroiser plus tard dans l'aventure, qui lui colle une espèce de limace sur la tronche, et elle se réveille avec des grands yeux bien, bien grands ouverts, comme si elle n'avait plus de paupières, et avec rempli d'un savoir étrange, comme si elle venait d'une autre époque.
Ouais.
Donc
c'est bizarre ça comme truc.
Oui, c'est très bizarre. C'est pour ça que je pense que le manga nous pose dès le début en fait un peu l'univers en fait et ses règles et vient nous poser en fait de là pas mal de choses en fait qui est de règles qui régissent en fait ce monde. Comment les plantes se comportent, comment les monstres se comportent, comment les gens sont organisés, etc. Comme si c'était en fait le premier tome d'exposition à l'intrigue.
Mm-hmm.
Preuve en est, justement, la fin de ce tome se finit en bon nœud de boudin comme on aime bien, histoire de vous dire « Achetez vite, avec la suite
!» uh-huh.
Donc, c'est un manga en seulement 3 tomes, comme je les aime, donc une série courte, donc ce qui justifie tout à fait le fait que ça représente en fait un tome d'exposition. Donc on va y suivre donc les aventures, comme je vous disais, de l'apprenti prêtresse, de la petite fille chelou qu'elle rencontre, et des intrigues en fait politiques qu'il y a, et les enjeux qu'il y a en fait autour de son apprentissage, de son futur rôle de prêtresse. Donc c'est un seinen, donc il y a en effet en fait des scènes un peu choquantes, on va dire.
Bon, moins que dans Ikari Ligi Globe là.
Ah oui, beaucoup moins, ceci dit, c'est plus choquant, on va dire, dans ce que ça représente. Le côté un petit peu intrigue politique, enjeu comme ça, etc. Ça va pas forcément parler aux plus petits. Les dessins sont pas inaccessibles, ceci dit. Et d'ailleurs, point intéressant, en fait, au niveau des dessins, on a l'impression qu'en fait, on a laissé ce petit côté griffonné, en fait, surtout au niveau des visages.
Oui, un côté un peu rough.
C'est ça. Si Tony, par exemple, croquis. Peut m'appuyer là-dessus, moi qui n'ai pas le
vocabulaire. J'ai écouté pas du tout, je suis désolé.
Il y a côté, au niveau du trait.
Il regardait le manga mal.
Je trouvais qu'en fait, il y avait ce côté où, en fait, on a l'impression qu'on nous a laissé, en fait, le griffonner.
Ah, le, c'est vrai, ouais. Le griffonné, ouais, le crayonné, mais non.
Je sais pas, je cherche, moi je n'ai pas le vocabulaire.
C'est l'avis de notre expert technique.
Non, on est sur un dessin qui est assez jeté en fait. Qui est, on n'est pas sur de la ligne Leclerc, mais sinon, c'est, moi je trouve ça assez joli quoi. Mais oui, je vois ce qui te fait dire ça en fait. C'est des hachures qui sont un peu laissées comme ça brutes et qui donnent cette sensation effectivement de crayonné. De crayonné peut-être. Mais. Faut que les gens jugent par eux-mêmes en fait.
Ouais. Bah en tout cas, si ce que je devais dire pour appuyer justement ça, c'est qu'en fait ça participe à l'immersion dans l'univers. Pour moi, en tout cas, dans le sens où comme on se retrouve dans un monde qui apparemment a été ravagé il y a des dizaines d'années, on repart de zéro dans une civilisation qui semble assez primitive en fait au niveau de sa technologie, de ses types d'habitation, de fabrication. Et donc en fait on nous met à la place un peu lorsqu'on suit les personnages d'un explorateur pour ceux qui aiment ça et de comprendre en fait les enjeux et les codes en fait du monde dans lequel on nous immerge. Je suis pas très clair, je le sens, tu fronces les...
Non, c'est juste de trouver un moyen de voir que tu n'as pas dit que le dessin était primitif. Mais sinon, c'est une blague.
Il y a un côté simple, un côté un peu
brut, rude, en fait.
Voilà, brut, voilà. Brut. Okay. Et du coup, qui sert la narration, puisque du coup, on se retrouve dans un monde qui est reparti de zéro et dont il faut comprendre tous les nouveaux codes. Et ça nous donne vraiment la sensation d'être un de ces anthropologues, archéologues. Et je trouve ça très intéressant. Voilà. Donc, si vous aimez un petit peu l'exploration de nouvelles civilisations et les séries en petit tome, et si en plus vous avez déjà aimé des histoires de chez Ototo, c'est bel et bien Un monde transformé de Kanako Meiji, et c'est en 3 tomes.
Petite série, donc l'occasion.
Le 2e tome sort d'ailleurs en fin janvier, là.
Mais c'est encore plus l'occasion.
Voilà. Donc foncez.
Allez-y, merci Anthony, merci Bertrand, merci Tony. Bon, il est 19h51, on va peut-être pas se quitter tout de suite. Hein. Qu'est-ce qu'on raconte? Ça montre à quel point cette émission est bien préparée. Bertrand, t'avais l'air d'avoir fait une playlist de choses que tu voulais chroniquer prochainement.
Non, je voulais chroniquer j'avais lu, donc là, c'est quoi, Bakemonogatari? Ouais, j'ai lu les 4 tomes le week-end dernier, je voulais le faire, mais vous l'avez déjà fait, donc non.
Bah, est-ce que tu peux nous donner au moins ton ressenti dessus?
C'est comme je disais, c'est Ogret qui a fait les dessins. Du coup, moi, quand j'étais en librairie, j'ai directement vu que c'était lui.
Ogret qui a fait Ergir chez Pika.
Il a fait un autre manga qui est un nom infâme.
Le truc.
Björg Trinity.
Et le truc de baston, là.
Et il a fait Enfer et Paradis.
Enfer et Paradis.
Voilà. Oh. Enfer et Paradis, qui est un de mes mangas. Je l'ai lu 3 ou 4 fois, les 20 tomes, je sais plus quand il y en a. Et qui est un de mes mangas préférés, donc ça m'a fait plaisir de le retrouver, c'est quelque chose de neuf. Et c'est vrai qu'il fait des fois des histoires qui n'ont pas beaucoup de sens, on sait pas trop où ils vont en venir. Bon, moi j'aime bien ça, mais c'est vrai qu'il y a ça peut rebuter certaines personnes. Et là, de le retrouver sur ce style graphique, et en plus un scénario qui n'a aucun sens, mais qui avance, il y a quand même une certaine structure,
il est
c'est
beaucoup
plutôt
plus cadré,
entraînant, il y a quand même un certain cadre. C'est pas du tout Björk Trinity, quand t'as lu les 20 tomes, t'es là, tu fais... Je sais même plus quoi en penser, c'est trop confus, il y a trop de choses bizarres qui se passent. Alors que là, il y a vraiment une encre centrale qui te fait que tu restes au bon endroit et c'est pas non plus trop farfelu.
Peut-être qu'il est plus cadré parce qu'il
est plus cadré. Ouais, il est plus cadré et puis c'est pas lui qui a fait le scénario aussi. Donc,
toi, Enfer et Paradis, alors Anthony, non, pas lu.
Pas lu, mais vu l'anime.
D'accord.
Tony, non, pas, pareil, vu l'anime, mais pas lu.
Parce qu'on a vraiment l'impression, en lisant le manga, qu'il écrit ça au fur et à mesure, en fait, au fil de l'eau, et puis que des fois, il fait « Oh tiens, j'avais oublié ça, bah, je vais le remettre là, et ça passe. »
Oui, il manque un moment pour expliquer quelque chose.
Tiens, on a oublié de
Il va pas se dire « Je vais le mettre 2 tomes avant, il va le mettre là. »
On va faire un flashback de 4 tomes, voire 5 tomes. Et,
mais même sur Ogier, vers la fin, il y a des choses un peu comme ça, un peu moins de cohérence sur la fin, mais bon. Toujours sympa. Puis, son style de dessin est vraiment magnifique.
Ça peut se ressentir dans la série des Monogatari. Pour ceux qui connaissent peut-être déjà les nombreuses sorties DVD qu'il y a pu y avoir, en fait, c'est une grosse série. Et en fait, la narration, elle ne cesse d'aller et venir dans la chronologie. En fait, du coup, on a un peu paumé.
Il y a pas mal de flashbacks. Ouais, sa particularité, Ogret.
Souvent, c'est les coupes de cheveux qui donnent des indices sur à quel moment ça se place dans la chrono.
À ce point-là,
c'est le seul truc que j'ai trouvé.
Parce que, et puis ce qui est marrant avec Hogrid, c'est qu'il a des personnages récurrents qui reviennent d'un manga à l'autre. Enfin, il a des modèles qu'il aime bien reprendre, des styles. On sait que c'est lui.
Hogrid, c'est le Manara en fait du manga.
Mais c'est marrant parce qu'un jour j'étais dans une librairie à La Rochelle, j'ai un petit peu craché sur ce monsieur. Et je demande conseil pour un nouveau manga. Voilà, j'ai dit que mes mangas préférés c'est Enfer et Paradis et Ogir. Et le monsieur s'était presque moqué de moi en disant mais ça n'a aucun sens, c'était vraiment c'est absurde, comment peut-on aimer ce genre de manga et tout.
Un libraire sympa,
ça m'avait choqué, pour moi c'était genre c'était Dieu et tout, et le monsieur me dit ça, je fais bah d'accord, bah, je vais aller juste voir ailleurs, bonne journée.
Tu lui as pas demandé ce qu'il lisait lui par hasard?
Si, bah, il m'a conseillé alors attendez, je vais retrouver le nom, le truc de samouraï.
Il y en a plein, c'est un peu vague là.
Samouraï
non mais je vais le retrouver, attendez, j'ai ma liste. Continuez, je reviens tout à l'heure.
Je sais pas. Non, mais voilà, Hogrid, n'hésitez pas à aller regarder, au moins. Faut savoir que le monsieur faisait du hentai avant, donc...
Gamaran.
Gamaran.
C'est un manga de samouraï où... c'est pareil, une vingtaine de tomes, où la particularité de ce dessin et de ce manga, donc c'est que des combats de samouraï, donc entre hommes, parce qu'à l'époque, les samouraïs, c'était que des hommes, choses comme ça.
Ouais.
Et on arrive à suivre le déroulé du combat de façon très détaillée, on sait... où il va mettre son coup d'épée, où il va le recevoir, où il va avoir mal, quelle blessure il a. Et le manga K arrive à nous faire ressentir ça, nous faire ressentir le manga vraiment. Là où par exemple des mangas comme Bleach, les mangas c'est un peu les combats c'est un peu confus, on sait pas trop ce qui se passe. Ouais. Et ben là on sait quel coup il a fait, avec quelle trajectoire, etc. Et c'est plutôt intéressant. Et voilà, même si ce monsieur il n'avait pas aimé Hogrid, il m'avait conseillé ce manga qui est aussi très bon.
Qui était plutôt bon.
Mais qui est très cohérent, très réfléchi, tout va dans le bon sens, il n'y a pas de surprise. Là où Hogrid, j'aime bien parce qu'on comprend rien, c'est extraordinaire.
J'en profite pour faire un clin d'œil à ma fille qui a découvert il y a très peu de temps une série animée avec certains samouraïs, et quand je lui ai parlé des samouraïs elle me fait mais pourquoi c'était pas tous des chats. Alors, je vous laisse deviner quelle série elle a pu découvrir.
Samouraï Pizza Cat.
Eh ouais, un bon moment. Bah alors Ben, tu nous parles de quoi après?
De live toujours.
De live et de musique avec tes comparses.
Exactement.
Eh ben voilà, on va meubler en faisant ta promo parce qu'on est un peu en avance.
Non, mais
si lui il avait prévu court, c'est peut-être un peu dommage pour lui aussi.
Non, mais c'est son problème après s'il finit trop vite. Je pense que t'as été un petit peu comme nous. Quand t'es bien lancé, tu finis toujours juste. Eh ouais, bon bah.
Tu vois, tu parlais de futures listes de ouais. chroniques, et ça me permet de rebondir un petit peu sur ce que Bertrand disait. Tu parlais donc de Gamaran avec un dessin très très
très détaillé,
technique,
voilà, très
et
technique.
Très détaillé. Et justement, en fait, dans ma liste de futures chroniques, il y a Basilisk. Et en fait, Basilisk, justement, je connaissais pas du tout en manga. J'avais
bien les trucs joyeux,
série.
En fait. Hein.
Oui, voilà, c'est très la joie. Mais oui, mais c'est ma spécialité, je crois. Les trucs déprimants. Et du coup, justement, j'étais étonné en fait à quel point lorsque ça a été adapté en anime, finalement, l'anime était hyper fidèle au format papier de base, au niveau de la reproduction du trait du dessin. Souvent, on a une perte de détails. Mais alors là, pas du tout. Mais pas du tout.
C'est hyper détaillé.
Le manga est très ancré. Enfin, dès que j'ouvre des pages, à chaque fois, c'est constamment noir, quoi. Et moi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé avec Kaoru Mori, par exemple, sur Bright Stories, sur Emma. Et là, j'en trouve ça avec Basilisk. Donc, je pense que ça va être super sympa et que ma gaieté à cette découverte va se sentir dans mes futures chroniques.
Eh ben, écoute, on a hâte de découvrir ça avec grand plaisir. Allez. That's all, folks. C'est tout pour nous sur cette case de Seb du 6 janvier 2020. Ça fait bizarre de dire 2020. 20 sur 20, c'est
faire
la note.
Faire attention quand
que...
vous marquez l'adresse. 20, on va rajouter 2019. Faut faire attention à la fraude.
Ah, c'est clair.
Eh oui.
On se retrouve la semaine prochaine. On est guetté. Là, on a été envahi par la bande de Ben. Je sais pas comment.
Ils sont nombreux ce soir, moi je me sens agressé.
Ils sont nombreux, ils sont tout pleins et ils vont vous réjouir les oreilles. Nous, on vous aura réjoui les yeux par l'intermédiaire du truchement de la radio. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Allez, bonne soirée à tous et n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Donne un petit schtoum.
Trompez vite! Il n'est pas chez toi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.